Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre toute nouvelle émission Un lundi avec CQFD. Un lundi avec CQFD, c'est quoi ? C'est une émission mensuelle qui a lieu tous les troisièmes lundis du mois de 13h30 à 15h. Nous accueillerons dans nos studios des membres de CQFD pour qu'ils viennent nous présenter le dernier numéro. Nous aborderons les grands titres qui ont rythmé le journal. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer les journalistes ou invités spécifiques pour qu'ils viennent nous parler en profondeur de certains sujets. Mais avant de commencer, CQFD c'est qui ? CQFD c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ouais. Oui, alors moi c'est Jonas à CQFD depuis septembre dernier. Je suis secrétaire de rédaction.
Mais bonjour Louise, bonjour Radio Galère. Il y a aussi dans la pièce du coup Inès et Morgane avec nous et Emilien. Moi je m'appelle Léna et je travaille à CQFD aussi. Donc je fais beaucoup de choses différentes pour CQFD. J'écris des articles, je fais partie du comité éditorial. Et je suis aussi community manager, je gère les réseaux sociaux du journal.
Ok.
Et du coup, moi, Emilien, je suis un peu le vieux de la bande. CQFD, c'est un journal qui a eu 20 ans il y a quelques mois. Donc les équipes tournent, ont tourné, enfin même si encore des personnes des débuts qui sont encore. Et moi, je ne sais pas, ça fait 6-7 ans que je propose des articles. Quelquefois, je gère des dossiers. Et par moment, je m'occupe du site internet. Ça dépend un peu des forces en présence.
Ouais, vous l'entendez sans doute un peu. CQFD, c'est un journal papier. Donc, on n'a pas du tout l'habitude de la radio. Et on est quand même très content de trouver un nouveau médium pour venir présenter notre travail. Et d'ailleurs, Jonas, tu vas nous faire une présentation un peu plus formelle du journal.
Oui, d'ailleurs, merci Radio Galère pour l'invitation, on est très contents d'être là. J'ai présenté en quelques mots, mes camarades vont compléter, et puis en fonction des questions, des centres d'intérêt, on pourra parler de ce que vous voulez par rapport aux médias actuels, avant de rentrer dans le vif du sujet, des différentes thématiques qu'on va mettre en avant durant cette émission. Donc, comme on l'a dit, ouais, CQFD, c'est un mensuel d'information qui a un format papier, qui est basé à Marseille physiquement, mais qui est diffusé nationalement, en kiosque. Y a des sujets locaux, nationaux et internationaux, en fonction de ce qui se passe, en fonction des terrains auxquels on a accès, en fonction des propositions qu'on reçoit. Ça a été fondé en 2003 par des journalistes chômeurs qui essayaient de faire un pas de côté par rapport à l'information déjà à l'époque. Et ça prend la suite d'une lettre d'information antimilitariste qui s'appelait Le Rire et qui s'est formalisée et élargie et qui est devenue ce qu'est la formule CQFD, donc un mensuel d'information papier. En 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses et on va pas tout vous raconter, mais on a sorti un numéro anniversaire qui est le numéro 220 avec un double dossier qui raconte énormément de choses, enfin qui retrace l'histoire de CQFD. Donc l'histoire du média, de sa ligne politique, l'histoire de son logo, qui est un chien rouge, les différents procès politiques auxquels on s'est confronté, les liens avec les luttes sociales particulièrement, parce qu'en tant que mensuel de critique et d'expérimentation sociale, il y a vraiment ce souci d'être au plus proche du terrain et des luttes sociales qui nous portent. Et comme je disais, en faisant un pas de côté par rapport aux autres médias. On est indépendant politiquement, ça veut dire qu'on n'est pas adossé ou lié à une quelconque organisation politique. Après, on a une ligne éditoriale et une ligne politique. Tous les médias en ont une, juste qu'il y en a qui l'assument et d'autres qui ne l'assument pas. Et on est indépendant financièrement, ça veut dire qu'on est financé par les abonnements, les achats en kiosque, les dons. Les achats de t-shirts, on a aussi une maison d'édition qui publie, qui édite et publie des livres. Et on a reçu par le passé un don de la fondation Un Monde par Tous. Et cette année, on a reçu un don pour un appel à projet du Fonds pour la presse libre, principalement chapeauté par Mediapart. Donc on est, à part ces dons occasionnels, on est indépendant financièrement. Le format papier, il est au cœur de notre projet journalistique. Il y a un article sur une déclaration d'amour aux rotatives et au papier dans le numéro 220, notamment pour le fait d'être diffusé, qu'on puisse tomber par hasard sur CQFD, que ça puisse se passer de main en main et qu'on ait quelque chose de physique à pouvoir amener et vendre en manifestation. que ce soit pour faire des papiers, y participer, y être présent et y exister d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Ben non, mais CQFD, on pense de suite à ce qu'il faut démontrer. Nous, ce titre, on l'a aussi pour ce qu'il faut détruire, ce qu'il faut dénoncer. Alors, selon la créativité de l'équipe éditoriale en place, on peut détourner ce dé de plein de manières, mais c'est vrai que, voilà, peut-être ce petit point juste sur le nom du journal qui est plutôt, en général, du côté de ce qu'il faut dénoncer, ce qu'il faut détruire, et peut-être ce qu'il faut, en tout cas, ce qui a été inventé, parce qu'il y a une partie de notre ligne éditoriale qui consiste à couvrir ce qu'on, Jonas le disait très bien, mais ce qu'on appelle des expérimentations sociales, mais en fait, c'est de la couverture de luttes, d'initiatives, de militants, de militantes, un peu de tout le territoire, mais du monde entier. Ça, c'est une partie de la ligne éditoriale qui nous tient vraiment à cœur. Et dire aussi que CQFD, c'est un peu un ovni au regard de l'écosystème de la presse et de la presse papier et des médias en France et ailleurs d'ailleurs, parce que c'est un journal qui fonctionne avec très très peu de moyens, où la majorité des contributions sont bénévoles, où le noyau du comité éditorial est en grosse majorité bénévole. D'ailleurs, on n'est que 3 ou 4 salariés.
On est 4 salariés.
Voilà, on est 4 salariés, donc notre graphiste qui viendra peut-être dans une émission suivante nous parler de son métier, de qu'est-ce que c'est produire vraiment un journal papier qui est visuel, qui est coloré, où chaque article presque tous, ont pour support une illustration, donc un travail, vraiment un travail autour du dessin et aussi de la production iconographique, mais qui n'est pas de l'image ou de la photo de presse. On en a relativement peu de la photo de presse dans CQFD. Ça fait aussi notre singularité. Et voilà, ce mode de fonctionnement qui est horizontal au sein du comité éditorial, c'est très singulier. Dans la majorité des journaux, il y a des rédacteurs, des rédactrices en chef. Bon, d'ailleurs, en fait, ne nous voilons pas la face, surtout des rédacteurs en chef. Et c'est des systèmes... Enfin, ça peut être très, très vertical, un journal. Alors que nous, à l'inverse, on essaie de faire le journal au sein de notre comité éditorial qui réunit, je crois, 8 à 10 personnes. Donc des personnes plus ou moins proches, mais j'irais un noyau dur de 8 personnes. Et donc on se met d'accord et on construit le journal à partir de ces 8 personnes et en se reposant énormément sur des appels à contributions qui peuvent venir de plein de gens. Donc ça peut être des journalistes professionnels qui veulent nous offrir des articles, enfin qui écrivent pour nous gratuitement, alors que le reste du temps, ils écrivent de manière rémunérée. Et ils le font, je pense, par conviction. Ils le font aussi des fois parce que nous, on va publier des choses qui ne seront pas publiées ailleurs. C'est important de le dire. Et on va aussi, peut-être dans une moindre mesure, à d'autres périodes, on l'a peut-être fait un peu plus aussi, mais accompagner des personnes qui ne sont pas du journalisme vers de la production d'écriture journalistique. Et on a à ce niveau-là une déontologie, une éthique autour de la vérification de l'information, autour de travailler sur du contenu qui soit cadré et anglais. CQFD, c'est un journal qui a une ligne politique qui est libertaire, qui est assez à gauche. Enfin bon, c'est pas forcément le sujet, mais voilà. Mais c'est surtout un travail journalistique. C'est pas du tract, c'est pas juste de l'expression d'opinion. On essaie d'apporter de l'information factuelle. Alors on le fait avec vachement d'humour, vachement d'ironie, avec une critique du système, du capitalisme, du racisme, du sexisme, enfin voilà, de plein de choses, de la France moisie et de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Hexagone. Hein, c'est un peu le sujet de notre dernier numéro. Mais on essaie de le faire avec une déontologie et un rapport au factuel, quoi. En fait, une démarche journalistique.
Moi, pour finir sur la présentation et notamment les 20 ans, tu disais OVNI. Alors, il y a OVNI par rapport à la presse, aux médias traditionnels. Mais il y a aussi, finalement, nous, on se sent quand même dépositaires presque d'une certaine responsabilité. Donc, dans la presse pas pareille, la presse différente, indépendante, alternative, des expériences d'un journal qui tient pendant 20 ans, malgré, en plus, là, des conditions quand même en kiosque, que ça devient de plus en plus difficile de survivre, ça va être de plus en plus difficile, eh bien, c'est déjà un assez grand exploit et aussi... une capacité, enfin ça c'est aussi les anciens du journal, les moyens anciens, enfin tout ça, la manière dont finalement s'est transmis un héritage où il y a certains points politiques qui ont évolué. Par exemple, au départ, il y avait très peu de féminisme à CQFD qui était surtout fait par des mecs. Et donc, il y a eu une continuation politique. Il y a ce côté mordre et tenir qui n'a pas changé. Et en même temps, réussir à s'évoluer, réussir à laisser la place après à des jeunes générations, à d'autres questions ou à d'autres trucs. Et c'est un des grands succès. Nous, on est les descendants, quoi, modestement.
Et je voulais rajouter en remerciement à toutes les personnes, toutes les contributions écrites et visuelles sont bénévoles à CQFD. Et sans ça, en fait, on ne pourrait pas fonctionner. Il y a plein de gens qui écrivent et qui illustrent, donc c'est des élus originales, les articles gratuitement à CQFD. Et sans ça, on ne pourrait pas fonctionner. Donc, merci à tout le monde.
Ouais. Okay. Merci pour ce petit tour de présentation. Je ne sais pas si il y avait d'autres choses que vous voulez exprimer, mais je voulais revenir sur certains points que je n'avais pas abordés en début d'introduction. Mais en gros, cette émission, elle va aussi donc permettre, une fois par mois, tous les troisièmes lundis du mois, d'inviter des membres de CQFD. Donc là, par exemple, c'est vous qui travaillez dans CQFD ou qui avez écrit des articles, mais ça pourra très bien être pour les prochaines émissions aussi des personnes qui ont illustré, qui voudront parler de leur illustration. Et comme ça, on pourra aussi voir un peu le journal à 360 de comment il fonctionne et qui est-ce qui l'alimente pour pouvoir aussi aborder l'actualité et les émissions. On trouve ça hyper intéressant aussi, donc, comme vous l'avez dit, de promouvoir ou de laisser la place à une presse indépendante. Et parce qu'aujourd'hui, on trouve que l'actualité, elle est quand même beaucoup plus de place à la droite ou à l'extrême droite. Et c'est pour ça, Inès, j'aimerais d'abord qu'on présente les deux autres personnes qui sont sur le plateau et qui peuvent parler.
Alors déjà, on a Morgane qui va intervenir un peu plus tard et tout parce qu'elle est AED et on verra comment c'est en lien justement avec les sujets qui ont été abordés dans le numéro de CQFD dont vous êtes venu pour parler. Déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et parce que ouais, c'est assez intéressant d'avoir justement un journal comme le vôtre qui peut s'exprimer et qui peut nous expliquer justement un petit peu aussi comment on peut faire d'autres formes, comment on peut présenter d'autres formes de journalisme, comment on peut traiter l'information aussi différemment. Et on pense ici que c'est important justement de laisser de la place en fait à un pluralisme aussi médiatique, surtout quand on voit en fait le contexte global dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une concentration, une hyper-concentration médiatique et bien sûr, politique et grands médias ont toujours travaillé ensemble. Et malheureusement, en fait, ça a une très forte influence sur l'opinion publique. Donc on voit bien qu'il y a très vite aussi une récupération politique et médiatique de certaines questions. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le but des deux numéros dont on va vraiment beaucoup traiter aujourd'hui. C'est justement le traitement médiatique de certaines questions qui jouent en fait toujours sur le registre de la peur et sur une hystérisation un peu collective justement des médias. En parlant, bien sûr, on va parler beaucoup d'immigration et de laïcité, qui sont des points, justement, qui ne sont jamais vraiment traités dans le calme. Donc, on va essayer de revenir un petit peu là-dessus, notamment sur ton article, Emilien, qui s'intitule, du coup, Lampedusa, la croisade médiatique, et qui illustre, en fait, quand je l'ai lu, du coup, je trouve très bien l'angle utilisé, qui est pour déshumaniser, en fait, les exilés, qui sont un peu décrits comme une espèce de masse menaçante et dangereuse, et dont on ne prend pas du coup l'individualité et l'expérience en fait migratoire, comme si c'était en fait le but était en soi de détruire la France ou l'Europe et pas de se rendre compte en fait de tous les autres paramètres à prendre en compte, les paramètres géopolitiques, les contextes de leur propre pays, etc. Ou encore à l'instar en fait du discours sur la communauté musulmane ou nord-africaine en France, parce qu'on fait très vite des raccourcis comme quoi tous les Maghrébins seraient musulmans. Donc il y a un espèce de fourre-tout aussi là-dedans où on met beaucoup de choses. Et ça a été traité justement, notamment en fait, à travers la question de l'abaya, et plus globalement en fait, sur une chronologie qui relate un petit peu justement l'historique sur le traitement du voile en France, et qui s'intitule du coup « 20 ans de racisme, 20 ans de sexisme », qui a été écrit par Laurent Pérez et qui a été étoffé de témoignages en fait, de membres de l'éducation nationale par Léna, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez utilisé un angle chronologique pour décrire en fait justement toute cette législation qui a fait en fait rentrer le voile, le foulard, puis progressivement aussi d'autres signes comme le bandana dans les signes ostentatoires religieux. Et ce que je trouvais peut-être aussi intéressant, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est en fait essayer un peu de comprendre d'où elle vient en fait cette crispation autour de la femme musulmane et plus largement nord-africaine. Et pour moi en fait, il faudrait remonter en fait aux sources qui sont celles de la colonisation, dans lequel en fait c'est le moment où on a vraiment créé un imaginaire orientaliste qui a servi à justifier l'administration, mais plutôt en fait la soumission des corps et des esprits. Et on a utilisé les femmes, la question de la femme, comme justement un instrument qui viendrait justifier la mission civilisatrice de la France, et où les femmes en fait ne sont pas leur propre sujet, mais elles seraient d'office soumises à l'homme, donc ici l'homme algérien, l'homme marocain, l'homme musulman, entre guillemets, dont la culture et la religion seraient par essence déviantes. Et du coup, il faudrait les émanciper, il faudrait les sauver de leurs conditions, les sauver de leur oppresseur, qui en fait n'est pas perçu ici comme le colon, mais comme l'islam. Et une idée d'ailleurs qui est partagée par les nombreuses féministes blanches et universalistes de l'époque. Et ce que je trouvais intéressant en fait, comme justement instrumentalisation médiatique d'une question qui est traitée politiquement, c'est les cérémonies de dévoilement en 1958, et où des femmes ont été justement amenées sur la place publique, et elles avaient été payées, d'ailleurs soudoyées pour faire ça, et se dévoiler devant les médias pour montrer justement aussi à la communauté internationale que la France était là pour émanciper ces femmes-là. Et voilà, on voit bien comment c'est encore instrumentalisé médiatiquement et politiquement la question des femmes. Et du coup, si aujourd'hui on revient sur ces questions de laïcité et d'immigration, ou plutôt sur la façon dont elles ont été traitées, c'est qu'en fait, sous couvert d'universalisme et du coup de liberté, ce seraient les individus et leur pluralité en fait qui sont totalement lissés, et eux-mêmes en fait seraient rendus étrangers par leurs conditions, que ce soit par exemple les jeunes filles qui porteraient la baïa sont renvoyées au fait de porter atteinte à la laïcité et du coup à ce que serait la France dans ce qu'elle représente. Et donc elles sont rendues étrangères en fait par ce regard-là qui est posé sur elles et par une stigmatisation qui tend de plus en plus en fait vers l'exclusion que sur justement l'aspect collectif. Parce qu'on pourrait par exemple plutôt s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on porte aujourd'hui la baïa, est-ce que c'est une question culturelle, pourquoi, quelles sont les pratiques, mais aussi que largement en fait les femmes sont toujours jugées dans leur posture. Et elles sont toujours au centre, sans jamais être vraiment sujet de la question. Donc qu'elles soient habillées trop court ou qu'elles soient habillées trop large, en fait, on fait toujours une fixette sur leur corps au lieu de leur laisser un espace de parole. Donc voilà, on peut revenir aujourd'hui avec ça aujourd'hui.
Ok, bon voilà, bah t'as un peu avancé sur toutes les questions qu'on va aborder dans cette émission. On a un peu spoilé la suite de l'émission.
Je spoile tout.
Tu es spoiler alerte. On va vous faire une petite revue de presse, c'est-à-dire qu'on va vous lire un peu les titres de ce qui se passe dans CQFD et on reviendra sur deux articles, mais avant on va faire une petite pause musicale et c'est une sélection spéciale CQFD parce que c'est Jonas qui choisit les musiques de cette émission. Donc est-ce que Jonas, tu peux nous dire quelle musique tu as choisi et pourquoi?
La première, c'est Hip Hop Is Dead de Nas. Ensuite, on aura Singing Man de The Roots et Kingdom Come de Jay-Z. Et en gros, c'était en lien avec un article qu'on a publié dans le dernier numéro sur une maison d'édition toute jeune qui vient de se créer et qui a pour projet d'allier musique populaire et politique sous toutes les formes littéraires possibles, que ce soit la biographie, l'autobiographie, le texte de recherche ou le récit. En allant au-delà en fait, des musiques explicitement politiques. Qu'est-ce qu'on peut trouver de fort et de pertinent politiquement dans les musiques de Jay-Z qui, chez nous, est surtout vue comme une success story et le rap business. Et le premier ouvrage pose la question de comment critiquer le hip-hop sans le connaître dans son histoire et dans sa culture. Et la maison d'édition ne va pas se restreindre au hip-hop et à d'autres projets.
BPM, maison d'édition
BPM pour bâton par minute. Et les prochains qui vont sortir, le prochain qui va sortir en avril sera sur la question des valeurs anarchistes dans le punk. Et ensuite, ça sera sur contre-culture et jazz en Allemagne et les bandes de jeunes en fait qui vont se battre contre les nazis.
Ok. Et là, la musique que tu as choisie, c'est Nas Hip Hop Is Dead. On va écouter ça. Ok. Hip-hop, hip-hop.
flip this track again, y'all. NYC, dirty South, West Coast, Midwest, let's go. If hip hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. DJ, DJ, DJ.
I just died this morning, she's dead.
Smoke, chill, party, and die in the same corner. Get cast, live fast, body, they man's mama. Quick, fast, trigger fingers on a llama. Revenge in the eyes, Hennessy in the ganja. Word to the wise, with villain state of minds. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind.
Grinded, hitting Brazilian dimes from behind.
Whenever, if ever, I roll up, it's sewn up. Any ghetto would tell your knives, help grow what's up. My face once graced promotional Sony trucks. 100 million in billing, I helped blow them up. Gave my man my right, I could've went left. So like my girl Foxy, the kid went deaf. So people, who's the top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? If hip hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. DJ,
if I just died this morning, she's dead.
The bigger the cap, the bigger the pillin'. Come through something ill, missing the ceiling. What influenced my rap? Stick ups and killings, kidnappings, project billings, drug dealings. Criticize that, why is that? Cause Nas rap is compared to legitimized crap. Cause we love to talk on nasty chickens. Most intellectuals will only half listen. So you can't blame jazz musicians or David Stern with his NBA fashion issues. Oh, I think they like me and my white tee. You can't ice me, we here for life, B. On my second marriage, hip hop's my first wifey. And for that, we're not taking it lightly. If hip hop should die, we die together. Bodies in the morgue lie together, all together now. If hip hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. Everybody sound the same, commercialize the game, reminiscing when it wasn't all business. It forgot where it started. So we all gather here for the dearly departed. Hip hopper since the toddler. One homeboy became a man, then a mobster. If it dies, let me get my last swig of vodka. R.I.P. We donate your lungs to a roster. Went from turntables to MP3s. From B Street to commercials on Mickey D's. From gold cables to Jacobs. From plain facials to Botox and facelifts. I'm looking over my shoulder. It's about 80 people from my hood that showed up. And they came to show love. Sold out concert and the doors are closed shut.
Bienvenue sur Radio Galère 88.4. On est toujours sur l'émission spéciale avec CQFD, un lundi avec CQFD. On était à la revue de presse. On vient d'écouter Nas. Et donc là, on était à la revue de presse pour dire un peu c'est quoi les derniers les articles tout simplement de CQFD. Donc là, moi, par exemple, j'ai le journal dans les mains. Donc quand je l'ouvre, on a un édito sur la menace de la presse, à qui le tour, un article sur Lampedusa, 20 ans de racisme, 20 ans de sexisme, au Niger, un putsch, le match retour de Tarnac, ACAB, c'est eux qui le disent.
Sur la symbolique dans la police, sur pourquoi la police utilise certaines symboliques, etc. Un article assez intéressant.
Mm-mm. On a à Brest, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce squat, « L'avenir, c'était mieux avant ». Qui s'est fait expulser, paradis fiscal, enfer social.
Sur comment pour régler tous les problèmes, il faut récupérer les impôts des riches. Il est pas mal celui-là.
Un reportage au Luxembourg. Ouais.
Sur la pauvreté au Luxembourg.
Sur la face cachée, face cachée du Luxembourg et des paradis fiscaux plus généralement même.
Qu'on encourage à brûler allègrement.
Allons-y.
On a beau comme un mammouth punk.
super recension sur le fanzine Permafrost.
On a bouquin de Zik, des trucs qui te tiraillent en restant populaire.
Et du coup, ouais, l'article que présentait Jonas juste avant la pause musicale sur cette maison d'édition BPM et qui est la raison pour laquelle on a écouté Nas juste à l'instant.
Il y a aussi mon article préféré, moi, de ce numéro, c'est Le droit à la paresse d'une grosse bouffonne, l'analyse littéraire d'Emilien, qui m'a donné super envie d'aller lire le livre dont il parle.
Ouais, c'est un super livre. Quand j'utilise grosse bouffonne, c'est entre guillemets parce que c'est ses titres. C'est une auteure qui écrit sous pseudo, qui s'appelle Popier Popol, et qui, dans un petit bouquin qui s'appelle L'étoile de mer, qui se base largement sur sa vie, je ne sais pas à quel point c'est autobiographique, raconte juste sa vie assez minable, son boulot assez minable, enfin minable, c'est pas juste...
Selon ses mots.
Oui, voilà. Et c'est d'un humour absolument génial, c'est vraiment très très cynique. Ça se lit très bien, c'est chez des copains, c'est une maison d'édition qui s'appelle Grévis. C'est sorti récemment et très, très j'encourage fortement. T'avais rien à dire.
Tu recommandes.
Je recommande, voilà, j'encourage. Et j'encourage Poupier Popol à continuer à écrire.
On a comme une évidence, je sais pas...
Un article d'un télo, c'est compliqué.
En fait, là, c'est nos pages culture. C'est une double page culture où il y a des recensions, beaucoup de maisons d'édition indépendantes sur une diversité de sujets où on parle du coup de bouquins. Donc, comme une évidence, c'était un papier qu'a écrit Laurent, qui est pas sur le plateau, mais qui parle de la forme commune de Christine Ross, qui est une historienne qui a parlé de... qui se base de... acheter les journaux, quoi.
Ouais, on va pas tout vous lire, mais c'est comme ça. Vous avez un peu une vue de qu'est-ce qu'il y a sur le journal du mois d'octobre.
Et puis vous voyez qu'on aborde des types de sujets variés, un panel large de sujets dans CQFD, des articles de terrain, des articles d'analyse. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir un panorama journalistique comme ça. Dans un numéro mensuel.
Ouais. C'est qui a fait la couverture de ce mois-ci ?
C'est Vincent, un illustrateur qui s'appelle Vincent, qui nous a fait un patchwork.
Punaise de lit.
Voilà. Un patchwork, donc le titre c'est Sous le signe de l'Hexagone. Normalement, juste en entendant cette phrase, vous avez une petite musique bien connue du public français qui vous vient en tête de la part d'un artiste. Dont on ne citera pas le nom parce qu'il a vendu son âme. Non, il y a beaucoup de jeunes. Enfin, on est assez jeunes sur le plateau.
Désolé,
aujourd'hui,
mais j'ai pas la référence.
Non, j'ai pas la ref.
Est-ce que pour les auditeurs...
C'est Renaud,
Aïe, aïe, aïe.
C'est un morceau dans lequel il étriait un peu la France à la Dupont-la-Joie, le racisme. Ah. Et c'est l'époque où Renaud avait beaucoup de classe, donc ce n'est plus l'époque actuelle.
Avant qu'il embrasse un flic, c'est ça?
Exactement, bien, bien avant. Et oui, il parlait plutôt de sortir son gun face au flic.
Ouais, et iconographiquement, le projet de cette couve, c'était de vraiment donner à voir une France un peu moisie, quoi. On était donc on l'a fait en septembre et c'était le moment, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby.
Avec Jean Dujardin qui chassait un coq, c'était horrible.
Voilà, donc on a voulu détourner ce coq et ce symbole français et puis pour montrer un peu, faire une lecture de ce que nous on voit dans la France et en fait aujourd'hui plutôt ce qui s'y passe en France, c'est de l'islamophobie à l'école, des squats qui sont expulsés, une réforme du RSA sous condition, une justice de classe, parce que tu l'as pas évoqué, mais on a aussi des chroniques juridiques en partenariat avec la Sellette et qui du coup nous donne à voir l'intérieur d'une salle de comparution immédiate. Donc voilà, une justice classiste et dont il faut aussi parler. Et voilà, et cette couve, elle, y a beaucoup de cafards et de cloportes dessus, et elle incarne un peu cette idée de la France, un peu rance, un peu moisie, et où il se passe toute une série de choses très négatives.
Avec, en même temps, je me permets de compléter, il y a aussi quand même ce côté technologique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un renouveau de cette vieille France rance qui passe par, c'est un robot chien, on n'a pas trop de robots chiens français, mais bon. Du coup, il a collé un petit drapeau français dessus, c'est mignon. Mais voilà que finalement, c'est une espèce de survivance, et un peu comme le capitaliste qui à chaque fois se métamorphose. Là, voilà, sur les anciens modèles, et toujours pareil. Là, il manque le petit truc parole raciste libérée que Adrien a oublié. Adrien, si tu nous écoutes. Et ça va avec, en fait, finalement, c'est les propos de comptoir qu'on entendait il y a 30 ans aussi. Sauf que là, ils sont matraqués sur les chaînes d'infos, on continue. Quoi.
C'est ça, c'est qu'il y a une réouverture dans les discours, en fait, qui a laissé la place à de plus en plus de rhétorique raciste, alors qu'avant, on la questionnait, on se cachait un peu plus.
Déjà, elle était honteuse.
Elle était honteuse, ouais. C'est ça. Il y a quand même eu un gros, gros glissement où il y a une démocratisation en fait, de ce genre de discours qui sont redevenus acceptables et où maintenant les gens vont carrément se dire « Quoi, Marine Le Pen ? Mais quand même, on va arrêter de la stigmatiser, cette femme. »
Donc, ouais. Ouais, et c'est tout le propos d'ailleurs de notre page 3 que Emilien a signé, donc, qui s'appelle « Lampedusa, la croisade médiatique » et qui est vraiment l'analyse de l'espèce d'énorme dérive médiatique qu'il y a eu le mois dernier autour de l'arrivée d'une arrivée massive de personnes
exilées. Une dizaine de milliers de personnes en quelques jours.
Oui, voilà.
À Lampedusa.
Ouais. Le chiffre qui est beaucoup revenu, donc c'était 10 000. On va en reparler avec Emilien maintenant, en fait. Hein, on va approfondir cet
transition,
article.
Quelle Léna, transition
Léna nous donne une transition toute mâchée.
On dirait Léa Salamé, quoi.
Donc, Emilien, en effet, qui a écrit donc, sur la couverture médiatique de la crise migratoire, comme elle est appelée, de Lampedusa. Donc, qu'est-ce que c'est la crise migratoire de Lampedusa ? C'est des grands chiffres qui sont énoncés. Emilien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, Lampedusa, c'est les grands chiffres énoncés, c'est les vrais chiffres, en fait. C'est une dizaine de milliers de personnes qui, à la faveur d'une fenêtre météo un peu favorable aux conditions de navigation, à la faveur aussi peut-être d'un été finissant, et du désir de partir de deux territoires qui sont soumis à des conditions de vie terribles, enfin où les exilés sont soumis à des conditions de vie terribles, qui sont la Libye et la Tunisie, qui est elle aussi de plus en plus un territoire extrêmement, je ne trouve pas les termes, mais disons, où la répression contre le simple fait d'être un exilé conduit à des violences, et bien ces phénomènes conjugués ont amené à l'arrivée. Il faut situer un peu Lampedusa, qui est au nord de la Sicile, qui est le territoire le plus proche depuis la Tunisie, et qui est aussi, depuis certaines parties de la Libye, le territoire le plus proche. Donc une toute petite île qui fait, je crois, 20 km carrés, j'allais dire 6 km carrés. Et non, 20 km carrés, il y a 6 000 habitants. Moi, j'étais allé il y a environ un an, j'en avais fait un article dans CQFD, mais à une époque où il y avait beaucoup moins de monde. Et juste, il y a une chose qu'il faut comprendre à Lampedusa, c'est que depuis un moment, tout est fait. Et ça, j'avais écrit dans un article dans un journal qui s'appelle La Disparition, qui est un journal épistolaire, qui tous les 15 jours, c'est une espèce de chronique de quelque chose qui disparaît sous forme épistolaire. Et j'avais écrit La Disparition des personnes exilées à Lampedusa, parce que tout est fait. Depuis le premier pas qu'elle pose sur l'île, depuis quelques années, il n'est plus possible pour eux de voir autre chose que le hotspot. Le hotspot, c'est l'endroit où ils sont fichés, recensés, avant d'être envoyés plus loin en Sicile. Et là, ce qui a fait beaucoup réagir, alors le hotspot, il a une capacité d'accueil, je ne sais plus, d'environ 1000 places. Il était des fois débordé. Quand j'y étais, il devait y avoir 1500 personnes, mais donc qu'on ne voyait pas. Et là, ça a été une situation où il y avait trop de personnes. Et le dispositif d'invisibilisation qui va en même temps avec quand tu invisibilises, que tu t'estimes que la personne ne doit pas être vue, c'est aussi parce qu'elle est déjà posée comme, en tout cas comme indésirable ou comme faisant tâche et donc comme faisant partie d'une invasion. Et donc voilà. Et là, ce dispositif a été complètement dépassé. Et moi, je finis d'ailleurs l'article en rappelant qu'il y a eu des scènes de joie, que beaucoup d'habitants étaient heureux d'enfin, parce que Lampedusa, qui depuis 20 ans est un lieu où atterrissent des personnes exilées, était au début, c'est les habitants qui, en fait, il n'y avait pas d'hotspot, il n'y avait pas d'autorité, et qui venaient au secours des personnes qui arrivaient. Et peu à peu, alors pas tous les habitants, évidemment, il y avait un discours raciste aussi sur place. Mais là, ça a été aussi, il y a eu des scènes de danse endiablées, les gens heureux de fêter la joie de ceux qui étaient arrivés. Il y a eu des restaurateurs qui vont faire des repas, il y a eu beaucoup de choses pour... Et juste pour finir, après, c'est un chiffre qui, à l'échelle de l'Europe, c'est absolument rien. Et quand on voit comment ça a été traité, et là, du coup, l'article, c'est vraiment une analyse médiatique un peu basique de voir sur les chaînes d'infos continues que sont BFM, CNews, LCI, et puis après, dans le reste de l'empire médiatique, France, Le Figaro, tout ça, quels étaient les mots utilisés. Les mots, c'était... On est passé d'ailleurs de submersion à invasion, qui est vraiment le truc guerrier. C'est ce que dit Zemmour depuis très longtemps. Et il y a vraiment cette idée, si on les laisse passer, regardez. D'où d'ailleurs le titre de la croisade, en fait. Pour eux, il faut chasser ces gens qui vont venir nous remplacer. Et c'est de l'ordre du religieux, et c'est de l'ordre de...
Alors, les termes choisis sont très importants. Enfin, quand on entend le Premier ministre britannique ou la Première ministre italienne utiliser des termes comme crise humanitaire, crise morale, tout de suite, on a du sensationnalisme, on a de l'émotion, et on n'est plus du tout dans régler le problème sur place ou dans le pays. On est sur créer de l'émotion, créer quelque chose, un sentiment de crise. Et c'est là où le traitement médiatique ne fait peut-être pas son travail.
Plus qu'il ne fait pas son travail, c'est qu'il est de toute manière dans une espèce de fantasme. Il est, par exemple, à chaque fois, tous ces vieux réacs qui n'y connaissent rien d'ailleurs. On invite Nadine Morano, on invite des gens comme Pascal Bromet, connaissent rien en réalité. Et eux passent leur temps à rabâcher que ça fait appel d'air. Que voilà, alors déjà, c'est pourquoi, que le fait de se comporter d'une manière, humaine, fraternelle avec les personnes exilées en ferait venir des millions et des millions. Or, il y a eu énormément de gens qui ont bossé sur la question et ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, le fait de rendre les conditions de vie impossibles aux migrants, que ce soit en construisant des murs, que ce soit en externalisant, on va pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a vraiment plein de moyens. Mais les gens continuent à tenter de passer, et les gens continuent à passer. Il y en a juste plus qui meurent en Méditerranée, plus qui meurent dans le désert algérien, plus qui meurent aussi à Calais, d'ailleurs, sur nos territoires. Et voilà. Et du coup, tout ce qui se joue dans les médias, c'est même pas une dérive, mais d'ailleurs, c'est moi qui l'avais écrit, t'as repris, mais c'est... En fait, c'est un mensonge et c'est une stratégie. Enfin... Sans entrer dans une théorie du complot, mais c'est disons, ou une facilité. C'est l'ère du temps.
Ouais. C'est le discours de la droite, du coup, qui
de l'extrême droite.
De la droite et de l'extrême droite, pardon. Qui assimile les personnes exilées une arrivée qui serait invasive, à une civilisation qui est en péril. Mm-hmm. Tu dis que c'est une stratégie.
Pour l'extrême droite, oui. De toute façon, après, là, par exemple, je cite... Un livre qui est le livre de chevet de Marine Le Pen, et on en a souvent parlé, là on a un exemplaire dédicacé, et qui est vraiment l'extrême droite, le cite tout le temps comme l'exemple de quelqu'un qui est visionnaire, qui a vu ce qui allait nous arriver. Et c'est un livre absolument immonde qui s'appelle Le Camp des Saints, qui a été écrit en 1975 par comment il s'appelle cette espèce de vieux porc
Jean Raspail.
Et je l'avais lu il y a un moment pour un autre article. Là, j'ai recherché les citations. Et c'est absolument... Ça décrit combien des millions de personnes arrivent en France et comment la France... Elles viennent du sous-continent indien. Et comment la France est détruite de n'avoir pas su les tuer. Et les descriptions des personnes sur le bateau, c'est horrible. C'est vraiment... C'est des gens... C'est comme la comparaison de Pascal Praud avec les punaises de lit, en fait. Ces gens, c'est la vermine. Ces gens, c'est la maladie. Ces gens, il faut les écraser. Ces gens, c'est fraisse le caca. À un moment, il y a vraiment cette citation, ils vont venir chez vous barbouiller les murs de caca. Et il y a cette idée que qu'on voit, pas dite de manière aussi obscène que Jean Raspail, mais c'est ça qui est dans les têtes, c'est ça qui est dans leurs têtes, et c'est ça qu'ils arrivent de plus en plus à imposer dans les médias. Et c'est ça qu'on voit aussi. Alors après, on peut faire des parallèles rapides, mais pour d'autres raisons, mais en Israël, quand on en arrive à parler d'animaux humains, c'est la même. C'est pas la même, parce que, et on va pas partir là-dessus, mais voilà.
Le fait de parler de ces personnes-là peut-être plus facile, du coup. Si on leur enlève leurs caractéristiques humaines, après, on peut se permettre de les traiter de la manière dont on veut, quoi.
Il y a deux trucs, en fait. Et les politiques d'externalisation sur lesquelles... Après, à CQFD, ça fait un moment qu'on traite de ces questions, des questions de la forteresse Europe. Et moi, j'ai pas mal fait d'articles, depuis un an, Je suis allé au Sahara occidental, qui est un endroit où on ne sait pas trop, mais l'Europe file beaucoup d'argent aux Marocains, alors comme un adore Emilia, pour qu'ils fassent le sale boulot que l'Europe ne veut pas faire. Enfin, que l'Europe préfère ne pas faire, préfère ne pas voir mourir à ses frontières. C'est quand même gênant quand il y a un bateau qui meurt trop près du rivage, comme ça s'est passé à Crotone en Italie. Mais après, je ne vais pas partir, mais disons que de terrain en terrain, en fait, la forteresse Europe, mais c'est aussi à Calais, c'est des phénomènes, un, d'invisibilisation, deux, d'essayer de repousser les gens le plus loin possible, le plus loin de nos frontières, et trois, à un moment aussi, pour avaliser ça aux populations. Ouais, voilà. Traiter les gens comme des chiens, comme c'est fait à Calais, comme c'est fait à Briançon, comme c'est avec une démission absolue de l'État et aussi des régions. Par exemple, sur la question des mineurs isolés à Marseille, ils s'en foutent complètement. Ce genre de choses ne peut passer que par une invisibilisation qui soit cachée, soit
une diabolisation.
Mais les deux avancent ensemble, à mon sens. Après, je ne suis pas un spécialiste.
On va continuer sur un prochain sujet. J'avais juste une dernière question pour toi, Emilien, concernant cet article, mais pas que pour toi, en vérité, pour tout le studio. Dans l'article, on a un ancien sauveteur en mer, Antoine Laurent, qui livre son témoignage et qui nous explique que nous sommes dans une guerre médiatique, idéologique. Quelles sont nos armes dans cette guerre, selon vous, les journalistes de CQFD et les chroniqueuses que nous avons en plateau? Rapidement, en 5 minutes, quelles sont les armes dont on dispose? Et ensuite, on passera sur la prochaine chanson de notre programmation musicale.
Je ne sais pas, à notre petite échelle, moi je commence, après je vous laisse. Ce qu'on essaye de faire, alors moins dans cet article, parce que là c'est une analyse médiatique, mais c'est déjà de donner la parole aux premiers concernés, ou d'aller voir, je suis allé par exemple aussi en Serbie, Claire Rivière, qui participe au journal des fois, qui est un journaliste, est allé à Briançon, je suis allé à Briançon, et souvent c'est déjà donner la parole aux premiers concernés, voire mettre en lumière les gens qui les aident, les gens qui pallient justement à toute cette indifférence, et qui sont, que ce soit dans la vallée de la Roya, que ce soit à Briançon, que ce soit à Calais, il y en a plus qu'on l'imagine, en fait. Souvent, les gens, quand ils sont au contact, non pas des écrans, mais au contact des réalités de l'exil, et qui voient que finalement, ces jeunes gens, ces jeunes femmes sont des personnes, non pas comme eux, c'est pas comparable, mais sont des êtres humains, la barrière tombe et la peur tombe, et donc c'est essayer de mettre ça en avant. Après, moi je suis très très pessimiste, parce que j'ai l'impression que la gangrène gagne à grande vitesse, mais en tout cas nous, à notre échelle, c'est ça. Et puis propager un discours offensif contre les énièmes lois, la prochaine loi Darmanin, appeler à manifester, appeler défendre des associations ou des réseaux comme Alarmphone, dont on parle beaucoup, alors je n'aurai pas le temps d'en parler là, mais qui nous tient à cœur, qui sont aussi des camarades. Et il y a quand même plein d'initiatives qui fourmillent. Après, on ne fait pas le poids face à la machine en face, pour l'instant. Attention.
Moi, pour répondre à ta question, Alexandre, c'est simplement dire que sur ce champ de l'analyse médiatique, il y a d'autres structures et journaux et médias qui font des choses intéressantes, notamment dans ton article, Emilien, tu remobilises vachement le boulot de Arrêt sur Image. Bon, comme ça, je pense aussi à Crimed, mais en fait, simplement dire qu'il y a une certaine partie des prises de parole des chroniqueurs et des chroniqueuses, notamment sur CNews, BFM, voilà, les chaînes d'infos en continu, qui sont des personnes qui propagent ce qu'on appelle des fake news, c'est-à-dire des informations non vérifiées. De toute manière, ces personnes-là ne sont, il faut le dire, ne sont pas journalistes. On les présente comme journalistes. On a peut-être l'impression qu'elles sont journalistes parce qu'elles parlent avec un micro sur une chaîne de télé. Mais en fait, c'est des éditorialistes. C'est des gens qui font du commentaire politique et qui, du coup, souvent font des raccourcis, des simplifications, voire racontent n'importe quoi. Donc, je pense que c'est une attention. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est encourager les gens à se tourner vers des trucs qui existent et qui font de la critique des médias. Il y en avait plus, celle que j'ai citée avant, et se tourner vers les autres acteurs de l'information, en fait, parce que comme nous, CQFD, tous les premiers vendredis du mois en kiosque, c'était le petit moment mais aussi peut-être Mediapart, peut-être d'autres titres qui vont
démystifier ce discours et apporter de l'information, des faits et des analyses qui ne sont pas le discours de l'extrême droite, quoi, tout simplement.
Ok, merci pour l'explication de ton article, en tout cas, Emilien, sur Lampedusa. C'était cool de revenir là-dessus. On va revenir sur un autre article où la personne qui l'a écrit n'est pas avec nous sur le plateau, mais du coup, ça va être Léna qui va un peu porter ça, et puis on a d'autres invités qui sont là. Mais avant ça, on va écouter une musique encore qui a été choisie par Jonas. C'est The Root, Singing Man. Tu veux nous dire deux mots sur cette musique précisément, Jonas ?
Oui, ça, alors ça découle du deuxième livre publié par les éditions BPM, qui est l'autobiographie du batteur du groupe The Roots, et qui, à travers sa vie, retrace en fait la naissance et l'histoire du hip-hop au sens large, avec toutes ses influences, et qui est vraiment, c'est un récit autobiographique, mais qui permet d'immerger dans la vie des milieux musicaux. Les influences, la guerre des maisons de disques sur une longue période, qui est vraiment passionnant.
Ok, bon ben merci. Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4, émission spéciale un lundi avec CQFD. Merci de nous écouter.
Another song, singing man, sing a song for me, sing a song for me. Look, I'm so twisted, so twisted. One life to live and I'm willing to risk it. Terror that the world has never known existed. Left so many clues, now how could they miss it? Sadistic, ballistic, find a word and pick it. Long as it means the world is on my shit list. Walk a time bomb, my mind is on tick-tick. Countdown's on, it's too late to nix it. I'm so anxious, so anxious. The ones I hate barely know what my name is. Have no clue that I'm armed and dangerous, willing to spill my blood to be famous, willing to spill my blood to make changes. Look for a suicide note to explain this heinous, inking the ache for my anguish. Sounds insane, you speak in my language.
Days are living fast, moves of misery. You got a song you wanna sing for me. Sing a song, singing man. Sing a song, singing man. Sing another song, singing man. Sing another song.
For the crescent, two for the cross, three for the blessing, four for the lost kid holding a weapon. Walk like a corpse in the face of transgression. Military issue collision, a cover or machete or a pitchfork. He killing cause he feel he got nothing to live for. In a war taking heads for men like Charles Taylor. And never see the undisclosed foreign arms dealer. 13-year-old killer, he looked 35. He changed his name to Little No Man Survive. When he smoked that leaf, showed he believed he could fly. He loot and terrorize and shoot between the eyes. Who to blame? It's a shame that you was demonized, wishing he could rearrange the truth to see the lies. And he wouldn't have to raise his barrel to target you. His heart can't get through the years of scar tissue.
Days are living fast, moons of misery. You got a song you wanna sing for me. Sing a song, singing man. Sing a song, singing man. Sing another song, singing man. Sing another song, singing man. Sing a song for me. Sing a song for me.
What you're witnessing is true dedication. Charged by the call and the cause of a nation. Countdown, minutes away from detonation. A lifetime of prep work, this is the culmination. My manner seems patient. Enraged lies so deep I can taste it. Let's sacrifice lives past the first sensation. To paradise I fly. Delusions are lighting up the midday sky. The last days of mine spent in extreme secrecy. Wolves dressed like sheep occur more frequently. Too much faith to be scared to petrify Ben Flynn. Those who live fearing death might as well be dead. Towers of the occupiers will soon fall. More of a mass murderer, that's your call. Mass transit on all, who can watch them all? In the name of the merciful, sing me a song.
Days are living fast, moves of misery. You got a song you wanna sing for me. Sing a song, singing man. Sing a song, singing man. Sing another song, singing man. Sing another song. Sing a song for me. Sing a song for me. Sing a song for me.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4, une émission spéciale un lundi avec CQFD. Sur notre plateau aujourd'hui, on a des invités, donc on a les membres de CQFD, mais on a aussi Morgane qui est AED, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'article 20 ans de sexisme, 20 ans de racisme. Est-ce que Léna, toi, tu as un peu envie de nous parler de cet article? Et après, Morgane, peut-être que tu reviendras sur toi, ton expérience en tant qu'AED, et comment cette loi elle influe dans le travail et dans vos rapports avec les jeunes?
Ouais, bah, peut-être rajouter simplement que à CQFD, on a des titres, mais on a aussi des surtitres. Et le surtitre de cet article, c'est « Laïcité dévoyée ». Donc « Laïcité dévoyée, 20 ans de racisme, 20 ans de sexisme ». Parce que l'article, il traite aussi de cette question. Comment ça s'est passé en septembre? Donc nous, on est un mensuel, on paraît le premier vendredi de chaque mois. Donc on construit le journal sur un mois. Début septembre, on commence à penser à qu'est-ce qu'on va mettre dans le numéro d'octobre. Et on est en plein dans l'annonce de Gabriel Attal qui a sorti cette circulaire interdisant le port de l'abaya dans les écoles publiques républicaines. Et nous, à la rédaction de CQFD, notre réaction, c'est de dire « Ok, on veut traiter cette question, on veut traiter la question de l'islamophobie en milieu scolaire, on veut traiter la question du port de signes religieux ostensibles et surtout de leur interdiction. Et comment est-ce qu'on peut le faire ?» Notamment, à ce moment-là, on se dit que dans le traitement médiatique qui est fait et dans les débats avec les personnes qui nous entourent hein, aussi, il y a un peu une grande absente, c'est qu'on ne se pose jamais la question de... en fait, pourquoi est-ce qu'à la base, ces signes religieux ostensibles, donc aussi bien le foulard, le voile que les croix, la kippa, mais en vérité, c'est plutôt un débat qui se cristallise autour du foulard des adolescentes musulmanes. On se dit, voilà, quel est le problème? En fait, d'où vient la crispation médiatique autour de ce sujet? Et donc, on va choisir de traiter la question à travers une approche historique. D'où le titre, 20 ans de racisme, 20 ans de sexisme. Et pour amener cette approche historique, on a choisi d'interroger Pierre Thévagnan. Pierre Thévagnan, c'est un monsieur, bon, qui n'est pas là avec nous, et c'est dommage parce que c'est un peu son sujet de prédilection, il en parlerait très bien. Nous, on a choisi de l'interroger, donc c'est un format entretien. On lui a posé une dizaine de questions sur le sujet afin de répondre à notre angle, qui est une approche historique de comment est-ce qu'on est arrivé à la loi de 2004 sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école. Pierre Thévagnan, donc, il est enseignant, il fait partie de l'Éducation nationale. À l'époque, en 2004, il était très mobilisé, il l'est toujours d'ailleurs, dans plusieurs collectifs, notamment un collectif qui s'appelle Une école pour tous, toutes, ainsi qu'autour d'un site web qui s'appelle Les mots sont importants. Et il a écrit plusieurs ouvrages, notamment Le voile médiatique, sous-titré Un faux débat, qui est paru au Seuil en 2005, et un autre bouquin qui s'appelle Dévoilement, du hijab à la burqa, les dessous d'une obsession française. Où, notamment dans le premier bouquin, le voile médiatique, il refait un petit peu l'histoire des polémiques et du champ politique, de comment est-ce qu'on en est arrivé à, en 2004, d'une tradition française où l'école avait toujours été un espace de libre expression pour les élèves, un espace où la laïcité, comme dans toutes les institutions, la laïcité était la laïcité des locaux, la laïcité des programmes, la laïcité des enseignants en tant qu'agents du service public. Comment est-ce qu'on est passé à ce renversement, qui est le renversement de la loi de 2004, qui en fait fait porter le poids de la laïcité sur les usagers-usagères du service public, et a fortiori des usagers-usagères qui sont des enfants et des adolescents dans les écoles. Donc on lui a posé un petit peu ces questions-là, et il répond et il livre une analyse. Son analyse, elle est à la fois politique, hein, parce qu'il montre... D'où est-ce qu'il nous explique d'où est-ce que ça vient, quelles ont été les premières personnalités, plutôt de droite conservatrice, à avoir mis ce sujet du port des signes religieux à l'école sur le tapis. Il nous montre qu'est-ce qui s'est passé dans le champ politique, qui a changé d'avis, quand et comment. Il nous parle aussi des conséquences sur la scolarisation des élèves, et en particulier des jeunes filles qui portent le foulard. Et... voilà, il répond à une certaine série de questions. L'occasion peut-être pour nous de dire que CQFD, c'est certes une publication papier qui sort tous les premiers vendredis du mois, mais aussi un site web qui s'appelle cqfd-journal.org.
et qu'on met en ligne gratuitement, enfin en tout cas en accès libre, hein, parce que c'est toujours possible de faire un don, tous les articles qu'on écrit et qu'on... Enfin, une grosse partie des articles qu'on écrit sur notre site. Et donc, cet article dont on est en train de parler, tout comme l'article dont Émilien parlait avant la coupure musicale, sont disponibles sur notre site. Du coup, enfin, on vous remettra les liens sur Radio Galère, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas Pierre Thévagnan et je ne vais pas m'approprier son analyse ni tout son travail de recherche. Mais voilà. L'autre manière qu'on a eu de travailler autour de cette question du dévoiement de la laïcité à l'école, ça a été de proposer une frise chronologique, hein, qui est plutôt une série de repères temporels pour comprendre comment est-ce qu'on passe en fait des premières affaires très polémiques autour du voile, c'est-à-dire en 89 l'affaire de Creil, puis peut-être après l'acceptation de cette loi l'affaire de la crèche Babylou en 2008. Où la question de la neutralité des agents aussi est posée, voire on aurait pu rallonger cette frise chronologique en ajoutant des dates, parce que les polémiques en fait, autour du port du foulard dans des milieux proches du milieu scolaire, notamment la question des accompagnantes scolaires, c'est des choses qui reviennent régulièrement dans le débat. Et donc voilà, on s'est proposé en tout cas de poser quelques petits repères, jusqu'à aujourd'hui l'affaire de l'abaya, et on s'est aussi proposé de recueillir des témoignages, comme celui que Morgane, peut-être tu vas nous livrer maintenant, mais en tout cas des témoignages de personnel de l'éducation nationale qui sont confrontés à cette question, à cette omniprésence de la laïcité aujourd'hui dans leur boulot quotidien. Et d'une laïcité qui est comprise à une manière française assez singulière, donc on revient encore à cette idée d'une laïcité peut-être dévoyée, où la laïcité qui, en fait, à la base, est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Comment est-ce qu'en France, on en fait un truc assez singulier qui est... que certains ont pu appeler une laïcité d'exclusion, qu'on peut suspecter d'être une laïcité peut-être islamophobe. Et nous, en tout cas, la question qu'on s'est posée, c'est comment ça se passe concrètement quand t'es prof, quand t'es AED. On a aussi interrogé des CPE et même du personnel de direction d'un collège. Alors forcément, nous, on fait de la presse papier, on n'avait que 2 pages. Donc on n'a pas mis tous ces témoignages, mais c'était essayer d'interroger comment ça s'est passé pour eux en ce début d'année avec la circulaire sur l'interdiction du port de l'abaya, et comment ça se passe en général ces dernières années. D'ailleurs, parmi les personnes qu'on a interrogées, il y avait une professeure documentaliste qui exerce depuis 20 ans, qui a vraiment témoigné sur cette évolution et ce climat en fait à l'école où la question de la laïcité est vraiment mise au premier plan. Peut-être Pierre Thévagnan parle de matraquage idéologique, c'est quelque chose qu'on demande aux professeurs et aux AED de faire régner à tout prix, sauf que...
Comment ?
Sauf qu'en fait, parmi les questions qu'on peut se poser, c'est comment ? Peut-être que toi, tu peux nous raconter, Morgane, dans ton travail d'AED, donc ça fait 1 an et demi que tu es AED, si j'ai bien compris.
Oui, moi, c'est surtout... je veux surtout retranscrire la parole de mes collègues parce qu'en fait, il y a une différence de traitement dans les établissements, parce que comme cette mesure, elle est floue, elle est absurde. Et du coup, il y a un peu une différence dans la manière dont c'est traité. Et surtout dans les collèges et les lycées, c'est surtout les lycées qui sont affectés par ça. Et oui, moi, c'est vrai que j'étais un peu choquée quand j'entendais... par exemple, je sais pas, j'avais un exemple d'un collègue qui me racontait que... dans son établissement, il y avait 2 filles qui avaient une robe longue, une qui avait une robe noire et l'autre qui avait une robe bleue à fleurs, et que celle qui avait une robe noire avait été renvoyée chez elle et pas celle avec la robe bleue à fleurs, alors que c'était exactement la même robe. Et du coup, c'est là où on se pose la question de, en fait, qui c'est qui met ces lois en place, qui c'est qui doit les appliquer. Et moi, personnellement, je suis incapable de faire la différence entre ce que c'est qu'une abaya et ce que c'est qu'une robe longue, et surtout aussi ça me concerne pas. Et je me retrouve à devoir un peu juger la tenue d'une enfant clairement en fonction de sa religion, quoi. Et chose que j'ai pas du tout envie de faire et que mes collègues AED pour la plupart n'ont pas envie de faire, parce qu'il y a aussi des collègues qui font appliquer ces lois. Et donc voilà, et moi je trouve que ça pose vraiment la question de comment on exerce son travail et surtout comment en fait on se retrouve à être face à l'islamophobie ambiante, parce que clairement c'est ça. Et voilà. Et après, bon, bah, moi, enfin, on va dire que dans mon collège, ça va, mais je pense qu'il y a plein de collègues pour qui ça va pas et qui se retrouvent à devoir appliquer des choses qu'ils n'ont pas envie d'appliquer ou devoir se battre pour pas faire appliquer des choses qu'ils n'ont pas envie d'appliquer. Voilà.
Et puis c'est ça, c'est que tu dis, en fait, c'est que du coup, c'est tellement flou. Ouais. En fait, au final, il y a des différences de traitement et c'est assez absurde aussi, dans le sens où on va du coup essayer de distinguer peut-être aussi les caractéristiques physiques d'un enfant, comment il les porte, parce que j'imagine qu'il faut aussi des fois ressembler à quelque chose pour qu'on se dise, tiens, cette personne est probablement musulmane, et du coup, si elle porte une robe large, dans ce cas-là, c'est peut-être en sous-texte une abaya, etc. Clairement. Et du coup, ça, c'est déjà, en fait, dans une France, je trouve, qui se revendique soi-disant aveugle. Aux couleurs, en fait, c'est un peu, ça faisait un peu, c'est un peu absurde.
Et puis c'est super hypocrite, quoi, parce que, enfin, en vérité, enfin, je veux dire, ça va pas empêcher les filles d'étudier et de, enfin, c'est un faux débat pour moi. Et c'est vrai que oui, il y avait eu l'exemple aussi de la robe Zara, là. Enfin, il y avait une petite qui était venue à l'école avec une robe longue, qui s'était retrouvée chez le proviseur et qui disait mais en fait ma robe je l'ai achetée à Zara, donc ils sont partis vérifier, en effet c'était une robe Zara et du coup bah voilà quoi, enfin je veux dire ça prouve bien que, enfin qu'il y a aucune, enfin je sais pas, c'est un faux débat, enfin je sais pas si cet exemple je trouve qu'il est hyper parlant pour expliquer que ça a pas de sens et que mis à part être une mesure répressive ça a aucune légitimité d'être quoi.
Oui c'est ça.
Et ben, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de travail journalistique aussi a été produit autour de cette question de l'abaya. Je pense notamment à des enquêtes que Mediapart a très vite sorties qui reprennent justement cette idée qu'il y avait quand même un flou. Il y avait un flou depuis l'année dernière, depuis la première circulaire de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Papendaï, qui avait du coup dit que les abayas étaient interdites. Ils n'étaient pas des vêtements coutumiers, mais bien des vêtements religieux et qu'elles étaient interdites. Et il avait laissé... l'exclusion des élèves ou les sanctions qui étaient à prendre. Il avait dit qu'il fallait toujours passer en premier par le dialogue, mais voilà, que s'il y avait des sanctions, c'était à la discrétion du proviseur et des chefs d'établissement. Derrière, Gabriel Attal est revenu avec une circulaire plus dure parce que du coup, elle pose une interdiction, comment dire, ça vient par le haut, hein, ça vient du ministère de l'Éducation nationale et reste aux équipes éducatives en place dans chaque établissement d'appliquer cette circulaire. Et que notamment ce qui s'est passé en ce début d'année, et c'est un petit peu ce que nous ont raconté, ce que m'ont raconté les AED et le personnel de l'éducation nationale, c'est que ça arrivait assez soudainement, beaucoup l'ont appris par la presse, et surtout ils n'ont pas été formés. Et ils dénonçaient un petit peu ce manque de formation à la laïcité, ou alors des formations à la laïcité qui ont quelque chose d'un petit peu orienté. Donc je pense notamment à une AED qui, elle, a suivi pour le coup... une formation qui s'appelle Laïcité et valeurs de la République qui fait partie d'un grand plan de formation qui a été lancé au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, dont l'objectif était de former les personnels de l'éducation nationale pour que justement le dialogue soit plus facile avec les élèves, avec les parents aussi, et pour qu'ils aient en fait des ressources et des compétences autour de cette question de la laïcité. Et en fait, je ne sais pas si toi, peut-être, tu as suivi une formation comme celle-ci ou...
Non, pas du tout. Bah, de toute façon, en tant qu'AED, on n'a pas de formation du tout. Mais non, j'avoue, je n'en ai pas eu. Et ça a été juste... On nous en a parlé de manière hyper brève à la rentrée en nous disant que on n'était pas là pour faire la police des mœurs. Et en même temps... c'est pareil, il y a du flou sur comment on est traité là-dedans aussi. On n'est pas là pour faire la police des mœurs, mais en même temps, si, parce qu'il y a une circulaire. Enfin, je veux dire, c'est un peu... mais tout le monde est dans le flou par rapport à ça, parce que c'est... Encore une fois, c'est absurde, quoi. Et surtout, il y a le biais sexiste aussi dans cette histoire, parce qu'il y a aussi... Il y a la problématique autour de l'abaya ou des robes longues, parce qu'en vérité, une abaya, c'est surtout une robe longue, quoi. Mais il y a aussi la... autour du croc top, enfin je veux dire, moi je l'ai aussi entendu mais du coup si une fille elle arrive à l'école et qu'on voit son nombril, bah pareil, il faut la renvoyer chez elle, alors donc enfin en fait si c'est trop long ça va pas, si c'est trop court ça va pas, enfin je veux dire, et la finalité c'est quand même juste qu'on empêche à des filles d'aller étudier, parce que enfin moi j'ai entendu beaucoup oui mais c'est pour aider les jeunes filles à s'assumer, enfin entre guillemets, à pas à pas se laisser avoir par des pressions qu'elles auraient chez elles et tout. Mais déjà, on n'est personne pour juger si elles ont la pression chez elles ou pas. Enfin, moi, à partir du moment où elles passent le portique de l'école, je les prends dans leur individualité et voilà quoi. Et surtout, je veux dire, je trouve que c'est un peu hypocrite dans le sens où au final, en les renvoyant chez elles déjà, quand bien même le problème ce serait ça, bah du coup ça les aide pas. Et aussi c'est, enfin il y a pas du tout de dialogue, il y a pas du tout de discussion quoi. C'est, enfin moi il y a des petites qui sont venues me voir en me disant qu'elles comprenaient pas et je ne sais pas quoi leur dire parce que je comprends pas non plus quoi. Voilà.
Enfin voilà, en tout cas nous face à toutes ces incompréhensions, le parti pris de CQFD ça a vraiment été de déjà nommer les choses, nommer le racisme et le sexisme qu'on pense qu'ils sont inhérents à ces lois successives qu'il y a eu autour des tenues à l'école, nommer ce basculement de 2004, qui aujourd'hui est quelque chose qui est rarement remis en question, qui est très difficilement contestable. On se pose peu de questions sur la loi de 2004, qui est pourtant fondatrice, et apporter à la fois du témoignage et un éclairage historique. Ça a été notre démarche journalistique. Après, vu qu'on arrive un petit peu... À la fin de cette émission, je sais que Inès avait fait un certain nombre de recherches et de ressources pour peut-être ouvrir sur ces sujets de l'islamophobie, et parce qu'on savait qu'on n'aurait jamais le temps de traiter la question. Je ne sais pas si tu veux peut-être nous conseiller des lectures.
Alors, j'ai un livre en particulier dans mon sac, j'arrive. Et surtout, en fait, moi, je conseille, je pense, il y a pas mal d'articles universitaires qui, au final, sont très accessibles, qui parlent justement de l'imbrication du sexisme et du racisme, qui, du coup, touchent énormément les jeunes filles musulmanes, ou même, d'ailleurs, pas musulmanes, d'ailleurs, parce qu'on a maintenant fait vite l'amalgame. Et sinon, il y a un livre d'un journaliste, justement, qui s'appelle Thomas Deltombe, qui s'appelle « L'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France », et qui part de 1975 jusqu'à 2005. Et c'est un très bon livre. Et du coup, il est assez, pareil, accessible et pas trop jargonneux. Du coup, voilà, je le conseille pour les gens qui s'intéressent un petit peu à tout ça. Et sinon, de fouiller aussi beaucoup la... Bon, ça, c'est mon parti pris à moi. Mais la question aussi coloniale, qui pour moi, en fait, est aussi centrale. Parce que pour moi, les affaires de mémoire, justement, quand elles ne sont pas traitées, on parlait de gangrène. Et pour moi, que ce soit une histoire d'une France qui se baserait sur un espèce de passé glorieux, mythique, de ce que ce serait une France idéale, qui ne laisse pas la place, au final, à l'évolution, je ne sais pas moi, à la fluidité, en fait, de la vie et de la société, et qui viendrait, en fait, justement, lisser un petit peu tout ça. C'est bien de revenir un peu sur les bases de cette construction, parce qu'au final... C'est beaucoup, on l'a évoqué, un imaginaire, et essayer un peu de déconstruire cet imaginaire-là et de justement de laisser la place, que tu disais, Morgane, aux individus qui sont concernés. Déjà, c'est une bonne chose. Et sinon, il y a une journaliste qui s'appelle Nesrin Slaoui, qui a aussi écrit beaucoup de livres justement sur, dont un qui s'appelle Illégitime, qui est très bien et qui parle justement aussi de comment se construire en tant que femme d'origine maghrébine en France. Et elle a fait Sciences Po, donc elle s'en est pris plein la tête. Donc aussi, comme quoi aussi dans le milieu scolaire, on a beau vouloir justement se faire partie justement du milieu scolaire, de ce... j'arrive pas à trouver les mots, mais en tout cas à vouloir se sentir légitime, en fait on est rappelé constamment par les institutions aussi parfois qu'on est autre et qu'on n'a pas accès à ça, et du coup il faudrait se lisser et se défaire de ces particularismes et de la mémoire parfois de la culture de ses ancêtres pour être français. Mais du coup je pose la question, qu'est-ce qu'être français?
Poser la question.
Voilà.
Et je voulais juste, j'en profite que tu cites Thomas Deltombe,
oui.
J'ai rebondi, c'est quelqu'un qui participe à Afrique 21, qui est un site auquel j'ai participé quelques fois, mais où surtout est très impliqué Rémi Carayol, qui a écrit l'article sur le Niger dans le numéro dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'est pas spécialiste du Niger, mais qui fait un très bon travail. Et donc, et Afrique 21, peut-être vous pourrez mettre un petit lien à la fin. Ils sont en recherche de fonds. Ils ont, comme nous, ils ont des financements absolument ridicules, et du coup, ils bataillent. Et ils font, pour suivre un peu ce qui se passe... en Afrique, un travail de journaliste assez, assez brillant, et c'était très très bien. Et j'en profite aussi, tu citais Pierre Thévenian, j'ai oublié quand on parlait de chiffres et de mensonges et sur Lampedusa, sur les questions migratoires, Pierre Thévenian a participé à un très bon petit livre à offrir à tous les tontons racistes au repas de Noël qui s'appelle on ne peut pas accueillir toute la on ne peut pas accueillir toute la misère du monde en finir avec une sentence de mort, et qui est une manière de déconstruire justement cette phrase de on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et aussi de rappeler après via moult chiffres que la France, qui se targue d'être une terre d'accueil, est absolument lamentable, à la traîne, et n'est pas du tout en phase de submersion, mais à 1000 kilomètres.
Merci. Ouais. Merci pour tous ces conseils lecture. On arrive au bout un peu de ce premier lundi avec Radio Galère, hein, pour CQFD. On voulait vous proposer une fin un peu marrante. Peut-être que Jonas, tu acceptes de nous lire le sondage exclusif que CQFD publie tous les mois.
On a décidé, nous aussi, comme BFM, de lancer nos propres sondages pour pouvoir ensuite biaiser l'information.
Expertise journalistique garantie. Donc le sondage du mois, quel premier, le premier qu'on lance, sondage exclusif. Si vous appreniez que par la grâce d'une malédiction ancestrale, Gérald Darmanin se retrouvait affligé de dents en bois et de knacky marque repère à la place des doigts, quelle serait votre réaction ? A. Méga jouasse. B. Éructante de bonheur. C. On peut lui ajouter des pieds en gelée de porc aussi ? Voilà, vous
Moi,
pouvez...
Moi, je réponds C.
Moi aussi, les pieds de porc.
Le vote est lancé sur les réseaux. N'hésitez pas à participer.
Voilà, et on espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de lire CQFD. Et puis, vous pouvez nous trouver en kiosque, donc chez beaucoup de marchands, marchandes de journaux. Si vous ne trouvez pas de kiosque près de chez vous, sur le site cqfd-journal.org, vous avez une carte des kiosques qui nous distribue. On est parfois à la bibliothèque, on est parfois chez des libraires indépendants. Et aussi, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà.
Merci pour cette super émission. C'était la toute première émission d'introduction du coup de Un lundi avec CQFD. La prochaine émission, ça sera pour le mois de novembre. Donc on aura votre prochain numéro du mois de novembre. Je ne sais pas si vous avez déjà des teases ou pas, ou nos teases. Il faudra écouter Un lundi avec CQFD sur Radio Galère peut-être.
Il faudra écouter Un lundi avec CQFD.
Ça sera à peu près vers le 20 novembre l'émission, donc restez bien connectés. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci Morgane, Inès, Jonas, Léna, Emilien, Alexandre d'avoir été là sur le plateau de Radio Galère. Et ouais. Pour se dire au revoir, on écoute un dernier son que tu as choisi, Jonas. Tu veux nous dire quel était ton son ?
Oui, la dernière chanson, c'est King Don't Come de Jay-Z. Et Jay-Z est, comme je disais avant, une des icônes du hip-hop qu'on perçoit aujourd'hui comme un peu le game, le star system et le business, donc un peu la trahison des principes hip-hop et de son histoire et de sa culture, ce qui est vraiment un jugement rapide, pétri de préjugés et qui découle d'une méconnaissance de la musique. Dans ce son, il questionne justement ses valeurs de base, les origines de la musique et les questions de la réussite. Est-ce qu'on peut réussir sans trahir ses idéaux ? Et le premier livre des éditions BPM apporte beaucoup d'éléments de réponse à cette question, c'est quoi le hip-hop, en quoi c'est politique ? Et je vous recommande vraiment la lecture.
Ok, merci. I-P-H-O-P without the boy H-O-V. Not only N-Y-C, I'm hip-hop savior. So after this flow, you might owe me a favor. When kingdom come, you ready? When kingdom come, I'm ready. When kingdom come.